Alors j'aime bien votre présentation. Il faut savoir, je le dis à tous, qu'en fait je ne vais rien enseigner du tout, parce que ce que j'enseigne en fait, c'est la vie et les expériences qui nous apprennent quelque chose. Donc en fait, ce que je vais vous parler en fait des constatations que j'ai faites depuis 30 ans en enseignant ce que, comme vous dites, la motivation et comment aller au bout de ses rêves, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est-à-dire que jusque l'âge de 30 ans environ, j'étais moi-même prisonnier des injonctions parentales, tu dois te marier, avoir des enfants, acheter une maison, faire ceci et cela, c'est la sécurité. Et c'est au bout de 30 ans seulement que j'ai pu me libérer et alors commencer à écrire aussi. Et donc, en fait, c'est un peu la vie qui nous met aussi devant des choix et des chemins. Donc, en fait, de quoi je vais parler, c'est des chemins que j'ai parcourus et que chacun peut parcourir également. Simplement, il faut être prêt et ouvrir les yeux pour pouvoir les voir au moment où on est en recherche, en fait.
Voilà. Quel chemin, alors, le premier chemin,
c'est l'insatisfaction. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les gens qui se mettent en route pour réaliser un projet qui leur est à cœur depuis l'enfance, en général c'est depuis l'enfance, ce sont des gens qui un jour ne sont plus satisfaits ou sont plutôt dans la douleur ou la souffrance de faire quelque chose qui ne leur convient pas. Et ça c'est le signal. Tant que l'on est plus ou moins bien dans sa vie, à ce moment-là ce n'est pas encore, la personne n'est pas encore prête. Tant qu'on est plus ou moins bien, c'est ce que font la plupart des gens. Ils survivent au lieu de vivre. Et moi, de quoi je vais parler ici, c'est de vivre, c'est de prendre sa vie en main. Donc à partir du moment où on est vraiment prêt, alors on est prêt à ce moment-là à recevoir des coups aussi et à payer le prix pour réaliser ce qu'on veut. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, tout à fait. Donc c'est le premier pas.
Le premier pas, c'est la douleur. C'est de dire, j'en ai marre de ce que je fais, je veux faire autre chose, je ne peux pas continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie et vieillir et passer à côté de mes rêves. Regardez, je vais vous donner un exemple. Alors que nous sommes assis ici, par exemple, à parler, eh bien, il y a des gens au même moment, en face de chez moi, en face de chez vous, qui se disent que leur vie n'est plus valable, qui sont prêts à se donner la mort. Ils se disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue pour eux. Or, c'est vraiment à côté de chez nous, dans la même ville, dans la même société. Certains sont peut-être vos amis à vous. Ils ne reçoivent pas des bombes sur la tête, ils ne sont pas handicapés la plupart physiquement. Ils ont la plupart aussi un bon travail, ils sont aimés par leur famille. Et pourtant, à certains moments, certaines personnes se disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et se donnent la mort. Et ce que je voudrais dire à tout le monde, au public ou à l'auditeur, c'est de regarder sa montre actuellement, à l'heure qu'il est actuellement sur sa montre, et de se souvenir que l'heure qu'elle indique est que d'ici demain, à la même heure, plus de 1850 individus auront essayé de se suicider en Europe. Et ce qui est important de se dire, c'est pourquoi? Parce que 300 vont réussir. C'est-à-dire qu'il y aura, d'ici demain, à la même heure, 300 personnes qui auront réussi à se donner la mort. Alors on peut se demander pourquoi. Et on peut se demander aussi, j'ai quelques statistiques intéressantes, c'est que dans les 24 heures, nous compterons 70 drogués nouveaux à l'héroïne, 120 vont mourir des suites de l'alcoolisme, et d'ici demain, à la même heure, près de 12 000 personnes auront leur première dépression nerveuse. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, c'est d'ici demain à la même heure. Et je me suis demandé toujours pourquoi, en animant des séminaires, des conférences, je me suis demandé comment certaines personnes peuvent voir la vie d'une façon négative, alors que d'autres l'aperçoivent d'une façon tout à fait différente et d'une façon optimiste, alors que la vie est neutre, elle n'est ni négative ni positive. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, chacun de nous sait au fond de lui-même qu'il peut s'améliorer, que nous ne vivons pas pleinement notre capacité que nous avons, c'est-à-dire que nous ne vivons pas à pleine capacité. partir du moment où on se rend compte de cela, et que nous n'agissons pas, nous commençons à nous déprécier. Et en force de nous déprécier, sachant que nous pouvons faire des choses, mais que nous ne les faisons pas, finalement nous arrivons à nous haïr. Certaines personnes se sentent un peu comme un échec ambulant. Et c'est à partir de là que, se sentant déprécié comme un échec ambulant, eh bien certaines personnes préfèrent abandonner la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que, ici où nous vivons, je parle de l'Europe, malgré tout ce qu'on nous dit à la télévision, les radios, etc., nous vivons dans un monde d'abondance. C'est un peu curieux à dire ça, parce que, en fait, quand on écoute la radio et la télévision, on nous dit le contraire. Mais si on regarde bien, nous dépensons des milliards chaque année en football, actuellement. Nous dépensons, dans la société dans laquelle on vit, des milliards d'euros en cigarettes, en produits de beauté, des milliards en loisirs, en vacances. Ça veut bien dire que nous sommes dans un monde d'abondance. Notre monde, si on le regarde sous une autre facette, notre monde est vaste, grand et merveilleux. Et si on arrive à le voir, les rivières, les mers, les arbres, les vallées sont un témoignage de l'abondance qui nous entoure et que certaines personnes n'arrivent plus à voir. Elles ne l'arrivent plus à voir parce que, comme je vous l'ai dit, elles se sont dépréciées et elles voient à travers un filtre négatif. Si on regarde au travers d'un télescope et qu'on le pointe dans le ciel, on se rend compte que le monde est extrêmement grand. Et si on regarde en plus un plus grand télescope, encore plus puissant, on se rend compte que le monde est encore plus grand que l'on pouvait imaginer. Et je pense que le plus grand télescope du monde se trouve au Chili. Et si on regarde encore au travers de ce télescope, on peut se rendre compte que nous vivons dans un monde immensément grand. Et ça, chacun de nous, en fait, l'oublie. Nous oublions que nous vivons dans un monde d'abondance. Par exemple, l'alphabet compte 26 lettres. Jamais aucun poète ne s'est dit « il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet ». Les plus grands poèmes, les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature ont été écrits avec simplement 26 lettres. Là aussi, du côté des musiciens, il y a 7 notes de musique. Aucun musicien ne s'est jamais plaint qu'il y ait 7 notes de musique. Avec ces 7 notes de musique ont été écrites les plus grandes symphonies du monde. Et au niveau des artistes aussi, des peintres par exemple, il y a 3 couleurs fondamentales, le bleu, le rouge et le jaune. Et jamais aucun peintre ne s'est plaint qu'il n'y a que 3 couleurs. Les créateurs, et les créateurs de mode ou les peintres ne se sont jamais plaints. Les trois couleurs fondamentales peuvent créer l'infini. Des personnes positives voient l'abondance là où d'autres ne voient que l'imitation. Moi, mon rôle à moi, ce n'est pas de dire cela simplement avec des mots. C'est simplement d'amener les gens à ouvrir les yeux sur ce qu'ils ne voient pas. Et à partir du moment où on commence à voir autour de soi des choses qui étaient là présentes, mais qu'on n'avait jamais vraiment remarquées, on se dit qu'en fait, finalement, nous avons bien de la chance d'être dans ce monde-là, dans un monde vraiment d'abondance. Et finalement, même je crois que, même en philosophant un peu, en disant que le seul fait de vivre déjà est déjà une abondance. C'est déjà le plus beau cadeau du monde. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on peut traverser tout cela et comment est-ce qu'on peut arriver à voir. Et mon rôle à moi, lorsque je donne des conférences et des séminaires, c'est de mettre des gens dans certaines positions pour qu'ils se rendent compte que, premièrement, la première chose qui nous empêche de voir, ce sont les habitudes, c'est la programmation. Nous sommes programmés. Quand je le dis, ça semble une évidence. Bien sûr que nous sommes programmés depuis l'enfance. Les parents, les injonctions parentales, les professeurs, les amis, la société nous programment d'une certaine façon. très difficile de changer ses habitudes. Les habitudes ont un bon côté, ceci dit. Par exemple, si on n'avait pas d'habitude, eh bien, ce serait difficile pour nous d'ouvrir une porte. On devrait chaque fois se demander comment s'ouvre une porte, alors qu'il suffit de tirer la poignée et puis la porte s'ouvre. Mais si on n'avait pas d'habitude, chaque fois qu'on se trouverait devant une porte, il faudrait chaque fois se demander comment l'ouvrir. Donc les habitudes, en soi, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que les habitudes sont aussi ancrées dans notre façon de penser. Nous avons par exemple l'impression, lorsque nous sommes face à face avec quelqu'un, que nous discutons, c'est-à-dire que nous avons des opinions. En fait, les opinions que nous avons, ce sont des programmations. C'est-à-dire que nous avons l'impression que nous discutons avec quelqu'un et nous ne faisons que répéter ce que l'on nous a dit dans l'enfance, ou bien le parent, ou bien la télévision, ou bien les radios, les médias, etc. Donc on ne fait simplement que répéter. Nous n'avons pas d'opinion personnelle réellement. Ça, c'est la programmation. Je peux d'ailleurs vous donner un petit exercice à faire immédiatement pour bien voir comment nous sommes programmés. Je vais vous demander de prendre quelques instants pour croiser les bras. Faites-le. Croisez simplement les bras. Voilà. Maintenant, vous avez croisé les bras. Voilà, c'est fait. Très bien. Maintenant, écoutez bien, vous allez croiser les bras dans la même position avec les mains et tout, mais sans réfléchir, en sens inverse. Allez-y, faites-le.
Parfait.
Vous avez remarqué que c'est pas si simple que ça, hein? Est-ce que les mains sont vraiment dans la même position que dans l'autre sens? C'est pas sûr, hein? Et restez en sens inverse comme cela. Restez en sens inverse, c'est très amusant, parce que vous avez remarqué que ce n'est pas très agréable. Vous l'avez remarqué? Ce n'est pas très aisé, je veux dire, d'avoir les bras croisés en sens inverse. Eh bien, reprenez votre conditionnement, remettez vos bras comme vous voulez. Alors, le fait d'avoir ces bras croisés en sens inverse, si vous commencez à croiser les bras en sens inverse pendant une quinzaine de jours, eh bien, ça deviendra une nouvelle habitude. Ce sera tout aussi confortable que dans l'autre sens. En fait, là, vous venez de remarquer que nous sommes vraiment conditionnés et qu'un changement dans notre vie, quel qu'il soit, commence par être désagréable. Et ça s'appelle la résistance au changement. Si nous voulons changer de vie, si nous voulons changer de partenaire, par exemple, de vie, ou bien si nous voulons nous marier, si nous sommes célibataires, ou bien si nous voulons déménager, ou si on veut changer de métier, eh bien, il faut savoir que l'on passe d'abord par un moment inconfortable, avant que cela devienne inconfortable. Je vais vous donner un exemple sur moi-même. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais avec deux doigts. Et je dois dire qu'avec mes deux doigts, j'allais très vite. Et puis un jour, une dactylo qui me voyait écrire m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas à écrire avec vos 10 doigts ?» Ah ben j'ai dit « C'est une bonne idée ». Et donc je me suis mis à apprendre à écrire avec les 10 doigts. Mais il faut savoir que pendant 1 mois à 2 mois, j'ai écrit plus lentement qu'avec mes 2 doigts. Il a fallu que je ralentisse pour aller plus vite après. Ça veut dire que j'ai dû accepter de passer par un moment inconfortable avant que je puisse prendre plus de vitesse dans ma façon d'écrire et aussi plus d'aisance. Et heureusement, je l'ai fait. Mais pendant un moment, j'avais envie d'abandonner parce que les fautes que je faisais étaient telles que je me disais « je ne vais jamais y arriver, ça va beaucoup plus vite avec 2 doigts ». Voilà par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tellement programmés que lorsque nous voulons changer quelque chose, nous sommes obligés, et je crois qu'il faut l'accepter, sinon ce n'est pas possible autrement, de passer par une phase d'inconfort pour arriver à avoir une aisance dans une nouvelle discipline. Je vous donne un autre exemple. Lorsque le meilleur champion du monde, lorsque le champion du monde de tennis, par exemple, gagne un match, eh bien, le lendemain, il est de nouveau sur le court avec son entraîneur, alors que c'est le champion du monde, il pourrait dire « je n'en ai pas besoin », eh bien son entraîneur va l'aider à améliorer un coup qui est peut-être plus faible pour qu'il devienne encore meilleur. Mais pendant son entraînement, alors qu'il doit commencer à réfléchir, le coup qu'il va faire sera moins bon que celui qu'il faisait avant pour devenir encore meilleur. Je ne sais pas si je suis bien clair.
Très très clair, je comprends parfaitement.
Vous comprenez bien, très bien. Il faut passer par une phase d'inconfort, c'est-à-dire il faut ralentir un peu pour pouvoir s'améliorer. Et la plupart des gens, je veux dire la plupart des personnes, je remarque que le frein, il est là. C'est-à-dire on a difficile à traverser ce moment d'inconfort pour devenir meilleur. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Si on veut devenir meilleur, il faut prendre le temps d'apprendre. Et c'est le temps d'apprentissage est toujours inconfortable. Je vais vous donner quelques exemples, par exemple, sur les habitudes et sur la programmation et sur le confort que nous avons et les difficultés de traverser notre confort. Il y a un naturaliste qui s'appelle Jean Fabre qui a fait une expérience. Il a mis des chenilles processionnaires, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des chenilles. La seule différence entre les autres chenilles, c'est qu'elles suivent une première chenille. Donc elles avancent à la queue leu-leu. Et ce naturaliste a fait une expérience.
Il y a eu un moment fort où j'ai eu envie de m'installer.
Il a mis les chenilles processionnaires en cercle. Et il a fermé le cercle. Et donc, les chenilles processionnaires ont commencé à tourner en rond. Il faut savoir aussi que la nourriture des chenilles processionnaires, ce qu'elles aiment, c'est des pommes de pin. Et il a mis des pommes de pin tout autour du cercle. Et il a remarqué une chose assez extraordinaire, c'est que comme les chenilles processionnaires suivaient la personne qui était devant, donc la première chenille, eh bien elles ont continué à tourner en cercle et elles sont toutes mortes de faim alors qu'il y avait l'abondance à côté d'elles. Beaucoup de gens sont un peu comme des chenilles processionnaires, c'est-à-dire que malgré l'abondance qui nous entoure, certaines personnes meurent de faim alors que l'abondance est là tout autour de nous. Je ne sais pas si vous avez visité la ménagerie d'un cirque, ça se perd un peu maintenant, mais moi étant enfant, je l'ai fait. Et on peut remarquer par exemple qu'il y a des éléphants, des grands éléphants, attachés à un petit morceau de bois qui est simplement planté dans le sol, avec une ficelle attachée à sa patte. Et on peut se demander, mais comment un éléphant si puissant ne casse pas la ficelle et ne va pas se balader dans la ville? Eh bien, c'est parce que quand il était petit, quand il était bébé, éléphanteau, eh bien, on l'avait attaché, sa patte, à un pieu en fer et une chaîne en fer solidement enfoncée dans le sol. Et tous les essais qu'il faisait pour se dégager était inutile, il ne pouvait pas dégager. Alors, devenant adulte, chaque fois qu'il sent une petite résistance, il a l'impression qu'il est comme le bébé qu'il était, qu'il ne pourra pas se dégager, alors que ce n'est qu'un simple petit, c'est une simple petite corde attachée à un petit poteau, à un petit bout de bois. Là aussi, je pense que beaucoup de personnes ont oublié la puissance qu'ils ont en eux. Parce que nous sommes programmés. Nous avons des limites que nous ignorons. Une autre très très belle expérience a été faite, enfin très belle et un peu spéciale. On a pris un cobaye et on l'a mis dans un entonnoir en verre et on a rempli l'entonnoir à moitié. Et alors le savant a mis le cobaye dans l'entonnoir. C'est une expérience un peu bizarre, mais qui est assez intéressante. Et il a alors chronométré le temps qu'allait mettre le cobaye pour arrêter de se, d'essayer de sauver sa peau, et de se laisser mourir. Et quand il abandonne la première fois, immédiatement le savant le sort de l'eau, le laisse récupérer et le remet dedans et il recalcule de nouveau. Et il a remarqué qu'après 2-3 fois, le cobaye, qui n'est pas bête du tout, sait très bien que s'il se laisse couler, on vient tout de suite le rechercher. Ça veut dire qu'après 2-3 fois, dès que le savant met le cobaye dans l'eau, dans l'entonnoir, immédiatement il se laisse couler. Parce qu'il sait qu'on va venir le rechercher. C'est très intéressant parce que moi, par exemple, avec mes enfants, connaissant évidemment ce processus, je les ai laissés vraiment se débattre longtemps pour trouver la solution avant d'aller les chercher. Une autre expérience a été faite par un autre chercheur. Il a pris un aquarium en verre, donc un grand aquarium. Il a rempli d'eau, bien sûr. Et au milieu, il a mis une séparation en verre. D'un côté, il a mis un bébé barracuda féroce, un féroce bébé barracuda. Et de l'autre côté, il a mis un merlan, un bébé merlan. Or, les barracudas adorent les merlans. Alors, mais chaque fois que le bébé barracuda voyait le merlan, il fonçait pour l'attraper. Évidemment, il cognait la tête contre la vitre de l'aquarium. Et en grandissant, quand ils sont tous les deux grands, le chercheur a enlevé la séparation de l'aquarium. Et alors, on a remarqué une chose extraordinaire, c'est même difficile à croire, c'est que le barracuda fonçait vers l'endroit pour attraper le merlan et s'arrêtait exactement à l'endroit où était la séparation en verre et retournait de son côté. C'est-à-dire qu'il avait vraiment été bien programmé. Une autre expérience intéressante qui peut nous ouvrir les yeux sur notre vie, un chercheur a pris un baquet et il a mis de l'eau dedans, un baquet pas très haut, de quelques centimètres de haut. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il est important de savoir qu'il a mis une grenouille dedans. Ça veut dire que la grenouille, en sautant, peut carrément sortir du baquet sans aucun problème. Et dans ces baquets, il a mis de l'eau, il a mis des petits cailloux, il a mis des nénuphars pour que la grenouille se sente à l'aise dans son confort. Et alors, il a commencé à faire chauffer le baquet d'eau chaude, mais très, très, très lentement. Et il s'est rendu compte que la grenouille, dans la chaleur, dans son confort, a commencé par s'engourdir. Et puis quand évidemment l'eau était très chaude, eh bien elle est morte, cuite, bouillie dans son confort d'eau chaude. La question qu'on peut se poser, c'est combien de grenouilles sommes-nous autour de nous qui simplement vivons dans notre confort et on finit par s'engourdir et à ne plus commencer à marcher vers sa vie en fait. Et pendant que je donnais une conférence, et un jour, j'ai une dame qui s'est levée dans la salle et m'a dit « Mais monsieur Philippe, moi j'ai encore aussi quelque chose à vous dire à ce sujet. Est-ce que vous savez que les poissons rouges se développent dans l'espace où ils vivent et grandissent en conséquence? Ça veut dire que si on leur donne un petit bocal, eh bien ce sont des petits poissons rouges. Et si on leur donne un très grand bocal, ou même carrément un étang, alors on a d'énormes poissons rouges. » Je ne connaissais pas cette histoire. J'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, je ne suis pas grand. Et je me suis posé la question en me disant, mes parents, sans savoir, m'avaient peut-être mis dans un petit baquet, dans un petit espace. Mais au bout d'une trentaine d'années, j'ai commencé à grandir. J'ai occupé beaucoup plus d'espace dans ma vie. Et maintenant, quand je passe devant un porche très haut, je baisse la tête pour ne pas me cogner. Donc la première chose que nous venons de voir, c'est clair que nous sommes programmés et que nous avons des habitudes. Bon, le dire ne suffit pas. Il faut que chacun de nous puisse le constater. En fait, nous ne sommes pas libres. Les personnes qui sont libres doivent traverser leur conditionnement. Et comment est-ce qu'on peut traverser le conditionnement? eh bien la seule façon de faire, il faut prendre le premier point, c'est de prendre des risques. Alors, il faut savoir qu'on traverse ces programmations quand on a, quand nous sommes arrivés au point, je vous ai dit tout au début, c'est que la vie que nous vivons ne nous satisfait plus. À partir de là, on est prêt à traverser ces habitudes et à commencer à prendre des risques. Et alors, il faut savoir que prendre des risques, ça veut dire que, quel que soit l'objectif que l'on se fixe pour obtenir quelque chose, cela veut dire qu'il faut être prêt aussi à payer le prix. La plupart d'entre nous rêvons des gens qui ont réussi, etc. Non, c'est pas que ces gens qui ont réussi ont d'abord eu de nombreux échecs. Ils sont tombés plusieurs fois. Pour devenir adulte, nous sommes tombés des milliers de fois. C'est-à-dire que quand on s'est levé étant enfant, eh bien, par exemple, on s'est levé, on avait le derrière trop en arrière, et on est tombé. Et puis, on s'est quand même relevé, et on a mis le derrière tout en avant, et on est retombé. Et puis, on a trouvé l'équilibre, et puis, on a mis sa main trop en arrière, et puis sa tête, etc. Je veux dire que chaque fois que l'on tombe, on apprend aussi à trouver l'équilibre, on apprend à ne plus faire ce qui n'est pas bon pour nous, et aller vers ce qui est bon pour nous. Ça veut dire que les expériences qu'on a, certaines personnes appellent ça des échecs. Moi, j'appelle ça plutôt de l'expérience. Donc les expériences que nous avons nous permettent justement de trouver l'équilibre et de marcher vers ce qui est bon pour nous. Ça, c'est un petit problème. Alors, ce qu'on peut faire d'ailleurs pour les programmations, par exemple, je dis souvent aux gens, je regarde un peu dans la salle quand je donne une conférence, et je repère toujours au premier rang quelqu'un qui a des lacets. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez venir devant nous? Et alors je lui donne un micro et je lui dis, est-ce que vous pouvez délacer vos chaussures? Ce serait intéressant, si vous avez des lacets, de le faire d'ailleurs. Simplement délacer une chaussure. Enlever le nœud, quoi, c'est tout. Et après, je leur demande, si vous voulez, faites-le maintenant, si vous avez des lacets, évidemment. Et alors je demande de nous dire dans la salle tout haut, dites-nous comment vous lacez vos chaussures. Est-ce que vous prenez le bout gauche avec le pouce et l'index gauche, l'autre bout avec l'index et le pouce droit? Est-ce que vous passez en dessous ou au-dessus du bout gauche? Et je n'ai jamais eu personne qui a pu m'expliquer comment il lacait sa chaussure. Ça veut bien dire que nous sommes vraiment programmés. Et heureusement, dans un sens, sinon ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps pour vivre. Mais le problème des habitudes, comme je vous l'ai dit, c'est que ça nous empêche aussi de sortir de cela. Et pour ne sortir de cela, il faut prendre des risques. Alors, pourquoi prendre des risques? La question à se poser, c'est de se demander pourquoi est-ce que nous serions prêts à prendre des risques et recevoir des coups dans la vie. Si nous n'avons pas un objectif qui est fixé dans notre vie, on ne le fera pas. On ne peut pas prendre des risques si on n'a pas un objectif qui est fixé. C'est-à-dire, si on ne sait pas pourquoi l'on vit ou pourquoi on veut vibrer dans sa vie, on ne peut pas prendre des risques. C'est trop difficile. Parce que prendre des risques, ça sous-entend prendre des coups aussi.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre des risques, Antoine ?
Ben, c'est-à-dire que c'est comme ça que nous avons appris à marcher, en prenant des risques. C'est comme ça que nous avons appris à rouler à vélo. C'est en prenant des risques. On est tombé et on a appris. C'est ainsi que j'imagine que la plupart des femmes, pas moi, je ne suis pas un bon cuisinier, mais je pense que la plupart des bonnes cuisinières ont appris à bien faire la cuisine. C'est en prenant des risques. C'est en se trompant. C'est en faisant brûler les choses ou en ne les épissant pas assez. Je pense qu'il est impossible de faire une expérience et d'avancer sans prendre un risque. Et il faut savoir aussi qu'on va tomber. La plupart des gens ont peur de l'échec. Et c'est la peur de l'échec qui les empêche de se réaliser. Par exemple, il y a des injonctions parentales qui nous empêchent d'avancer. On peut se dire, voilà, la direction que je veux, mon objectif, il est là devant, j'y vais. Et si on ne sait pas que l'on va forcément s'égarer avant de retrouver l'endroit, eh bien, la plupart des gens s'égarent et puis se disent, ben oui, mon père avait raison, il m'avait dit que j'étais un crétin ou que j'étais pas capable ou que ma sœur était meilleure que moi. Je voulais aller là et je suis arrivé ailleurs. En fait, lorsqu'un pilote d'avion monte dans un avion, il a une trajectoire, il a un objectif, il sait où il doit aller. Mais chaque fois, et c'est, il ne peut pas faire autrement, la tour de contrôle de destination lui envoie des indications. Et chaque fois qu'il s'égare, il corrige. Un pilote d'un bateau fait la même chose. Lorsque, je ne sais pas si vous avez déjà piloté un bateau, je veux dire même un simple voilier, eh bien on arrive à destination qu'après des centaines et des centaines de corrections. Il faut avoir devant soi l'objectif, mais il faut chaque fois corriger parce que le vent ou le courant nous emporte dans des directions différentes. Alors certaines personnes se disent, je voulais aller là, mais je n'y suis pas arrivé. D'autres se disent, ok, c'est là que je voulais arriver, mais le vent m'a porté ailleurs, je corrige ma trajectoire, et je recorrige ma trajectoire, et je recorrige ma trajectoire pour arriver à destination. Ça, c'est prendre des risques, ça veut dire accepter de tomber, accepter de se tromper, et alors avoir l'intelligence de corriger. Mais pourquoi prendre des risques? Si on n'a pas d'objectif devant soi, je veux dire que on se sent mal quand on n'a pas d'objectif. On ne peut pas accepter de se tromper, prendre des risques, de tomber, de se tromper de chemin, si on ne sait pas pourquoi on veut vivre. Donc ce qui est important pour pouvoir traverser les risques, c'est bien entendu d'avoir un projet. Alors les gens, la plupart du temps, me demandent, mais comment savoir ce qui est bon pour nous? Eh bien, je veux dire, j'en sais rien du tout. Pour savoir ce qui est bon pour nous, je n'ai qu'une seule réponse, c'est qu'il faut y aller. C'est-à-dire, il faut essayer différentes directions, il faut prendre différents chemins, monter plusieurs montagnes, se tromper plusieurs fois, jusqu'au moment où on se dit, voilà, ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Parce que la vie ne se passe pas dans l'intellect, la vie se passe dans l'action. Personne ne peut savoir à l'avance ce qui est bon pour lui-même. Moi, je ne savais pas que donner des conférences et écrire des livres, c'était bon pour moi. J'avais un rêve étant enfant, c'était écrire, d'accord. Mais je suis passé par d'autres chemins avant d'y arriver. Je ne savais pas non plus que je pouvais donner des conférences et des séminaires. Il a la première fois que je fasse que ça soit plus ou moins bon ou plus mauvais, pour que me dire, tiens, ça me plaît, pour continuer dans ce sens, pour que ça devienne un peu moins mauvais, puis un peu moins mauvais, jusqu'au moment où ça commence à devenir bon et un peu meilleur, etc. Je veux dire que la plupart, nous tous, nous ne